Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Les enjeux internationaux s'intéressent à la République démocratique du Congo à l'occasion de la réunion du groupe des contacts à la haie qui peut enrayer les pourrissements. Vous faites les points avec votre invitée Catherine Sommet, spécialiste de l'Afrique. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et bonjour Catherine Sommet.
Bonjour.
Merci d'être venue ici, chercheuse à l'IRIS, en charge de l'Afrique de l'Ouest. Vous venez de publier un article sur la République démocratique du Congo sur le site de l'IRIS. Alors depuis un an, l'un des plus grands pays d'Afrique est en crise institutionnelle à cause d'une élection présidentielle sans cesse ajournée pour la succession du président Joseph Kabila. Et cette impasse politique s'accompagne maintenant d'une forte dégradation sécuritaire. Les violences des groupes armés s'amplifient dans au moins 3 régions de l'Ouest, faisant courir le risque d'une composition territoriale. Les autorités, elles, jouent la montre, mais il y a urgence. Jusqu'ici, les sanctions internationales de l'Union européenne et des États-Unis après la répression des manifestations en 2016 n'ont pas changé la situation et le soutien de l'ONU, notamment militaire, est menacé. Ainsi, la République démocratique du Congo, pays pivot de 70 millions d'habitants convoités pour ses ressources minières, court peut-être le risque d'une implosion, mais qui peut mettre fin à ce pourrissement, Catherine Sommet? L'ONU disait qu'elle voulait ouvrir la voie assez récemment à des élections crédibles. C'est vrai qu'il y a eu un accord l'année dernière entre l'opposition et le gouvernement, donc fin 2016, pour un accord sur un gouvernement d'union nationale, un conseil de surveillance et de transition, mais la situation ne semble pas avoir évolué. C'est toujours l'impasse.
Oui, alors effectivement, il y a eu un accord le 31 décembre dernier à la Saint-Sylvestre entre l'opposition et le gouvernement. Un accord puisque, le président Kabila n'a normalement pas le droit constitutionnellement de se représenter pour un troisième mandat. L'échéance était donc au 21 décembre de l'année dernière, 2016. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu l'organisation des élections à temps. Et les élections ne sont toujours pas organisées à l'heure actuelle. Et donc, il y a eu une médiation de la SANCO entre l'opposition et le gouvernement pour pouvoir trouver un accord.
Et alors, il y avait précisément un certain nombre de raisons qui ont été avancées par le gouvernement pour expliquer le retard pris dans les élections malgré toutes les médiations au cours de l'année, notamment la question du recensement qui tardait à venir. Est-ce que ce sont de vrais problèmes? Est-ce que ce sont des prétextes, disons-le comme ça?
Oui, effectivement, il y a eu la question du recensement de la population pour pouvoir faire le fichier électoral, hein, c'est pas le recensement de la population elle-même, mais du fichier électoral. Donc on parle de plus de 40 millions de personnes sur un territoire immense, avec des difficultés logistiques extrêmes. Oui, effectivement, c'était avancé. Il y a eu aussi des difficultés financières pour le budget donc de la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante, pour réaliser ce recensement même, et les difficultés aussi sécuritaires, notamment on pense au Kassai, aux troubles pour réaliser ce recensement dans ces régions-là. Effectivement, c'est lié à toute une situation, un développement depuis 2-3 ans, avec l'obligation donc, qui a été votée d'effectuer ce recensement avant les élections et d'effectuer plusieurs mesures avec les lois électorales aussi, qui ne sont toujours pas votées à l'heure actuelle. Hein, il y a toujours des difficultés à ce niveau-là, qui bloquent effectivement ce processus pour permettre la réalisation des élections.
Et justement, donc, d'après ces accords, les élections étaient censées intervenir avant fin décembre 2017. Clairement, on n'en prend pas le chemin. Il y a eu des sources officieuses à l'ONU qui ont parlé de 2018, voire un peu plus loin. Est-ce que, d'après vous, c'est confirmé ces dates-là? Effectivement, on n'aura pas d'élections avant fin 2017.
Alors, effectivement, on avait l'Union africaine qui avait fait une annonce, qui avait en tout cas pris acte du fait que ça serait difficilement réalisable en 2018. La CENI n'a toujours pas communiqué de calendrier officiel électoral. Et donc le dernier conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenu sur la RDC hier, dans les déclarations du représentant, donc monsieur... dans la déclaration du représentant donc de l'ONU en RDC, il a pris acte que plusieurs déclarations, que ce soit au sein de la population, des sociétés civiles ou même au sein du gouvernement, rendaient compte de la difficulté d'organiser ces élections, donc effectivement en 2017, avant la date butoir du 31 décembre 2017.
Bon, alors, ça c'est pour la partie politique institutionnelle et quelles que soient les raisons du gouvernement, il reste bien que pendant ce temps-là, il y a la violence qui augmente dans une partie du pays. Je le disais, il y a plusieurs groupes armés qui ont refait parler d'eux dans l'Est, c'est-à-dire dans le Kivu, et cette situation dans le Kassai, avec 4000 tués depuis un an dans le Kassai. Il y a également des évasions de prisonniers à répétition un peu dans toutes les régions, 5000 depuis le début de l'année. Est-ce que, selon vous, c'est une situation plus grave que l'année dernière, et est-ce qu'on va vers un risque de délitement, disons, territorial?
C'est une situation qui s'aggrave, effectivement. On a de plus en plus de troubles. Alors, depuis, la RDC n'a pas été stabilisée depuis les années 90. Hein, si vous voulez, vous avez toujours des tensions en RDC, toujours des groupes rebelles. Ils sont de plus en plus fragmentés et donc il est de plus en plus difficile de dialoguer aussi avec ces groupes-là. Hein. Et donc il y a des actions qui sont violentes, mais on peut voir surtout donc il y a la superposition de cet aspect donc difficultés sécuritaires à l'est avec des nouveaux troubles dans le Kassai.
Donc il y a une base de l'ONU qui a été attaquée le week-end dernier. C'est une première quand même dans l'est. Oui.
C'est pas tellement une première. Ah. Il y avait déjà eu des attaques auparavant, mais
contre des postes. Mais là une base tout de même.
Oui, là effectivement c'est une base avec deux morts. Effectivement c'est assez violent. C'est lié aussi au contexte qui est avec des difficultés politiques extrêmes. Donc les troupes dans le Kassai qui ont retenu l'attention de la communauté internationale et aussi donc le déploiement des forces et les troupes politiques eux-mêmes. L'ONU a recensé plus de 1300 violations des droits de l'homme juste entre juin et juillet-août de cette année. C'est beaucoup plus que ce qu'il n'y avait eu en 2015, par exemple.
Et des violations de droits de l'homme, d'ailleurs, entremêlées entre les forces armées congolaises et les différents groupes armés. Il y avait des violations qui étaient attribuées également aux forces gouvernementales, il faut le dire aussi. Concernant ces groupes armés, il y en a certains qui ont fait parler d'eux, donc les ADF dans l'est du pays qui ont attaqué la base de l'ONU, mais également les Mai Mai Yakutumba, toujours dans l'est, qui, eux, sans même contester le pouvoir central lors d'une attaque en septembre, leur chef a déclaré vouloir chasser le président Kabila du pouvoir. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces de groupes armés? Est-ce que réellement il y a des volontés de contester le pouvoir central?
On voit effectivement qu'il y a de plus en plus de volonté, un petit peu de contestation. Les troubles au Kassai sont aussi liés à cela, avec on a des attaques ciblées contre des représentations étatiques. Donc effectivement, on a de plus en plus de violence à l'égard de la représentation étatique et donc à l'égard pas seulement du gouvernement, mais aussi donc de l'État et de son incapacité à assurer ses fonctions et la population, mais donc aussi les groupes armés et autres. Commence à contester ce fait et à demander plus.
Et de ce point de vue-là, quel scénario on pourrait envisager dans le sens où si la situation d'impasse politique perdure encore pendant un an, qu'il y a encore une augmentation de ces violences, est-ce qu'il faut craindre d'une part un retour des violences de rue comme on l'a vu en 2016? On sait qu'un opposant, Moïse Katumbi, a prévenu qu'il allait faire sortir ses partisans dans la rue de toute façon. Et est-ce qu'il faut craindre une dégénérescence rapide de la situation, par exemple, dans le Kassai, où il y a déjà, je le rappelle, 4 000 tués, 500 ou 620 000 réfugiés?
Effectivement, on peut craindre cela aussi, on peut craindre une recrudescence des violences et une augmentation de l'insécurité. Après, il est difficile aussi de rassembler énormément de personnes. C'est des gens qui, pour la plupart, essayent de survivre, tout simplement. Donc, il est difficile pour eux aussi de se mobiliser quand vous savez que vous pouvez être tué lors de manifestations. Et donc, il est vraiment difficile de rassembler tout le monde. Il y a aussi des difficultés qui sont liées tout simplement au contexte de la RDC, qui est vraiment immense. C'est quatre fois la France. C'est un territoire immense, difficilement relié entre eux. Hein. Dans les manifestations, on voit que ça s'est fait beaucoup en ville, mais la majorité de la population est encore rue. Et beaucoup, une grande partie de la population est analphabète et c'est difficile aussi de faire dialoguer les gens entre eux et d'avoir réellement des mouvements. Mais on voit effectivement apparaître, donc, comme au Kassai et possible possiblement dans d'autres régions, on pense au Congo ou d'autres régions, des mouvements de rébellion et de contestation surtout du régime et de l'autorité étatique.
Et précisons-le, des mouvements politiques qui perdurent, qui sont non violents, des mouvements de société civile oui. comme la Lucha, à voir ce qui se passera d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, et également les décisions qui seront prises, peut-être de nouvelles sanctions internationales. En tout cas, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Catherine Sommet, chercheuse à l'IRIS en charge de l'Afrique de l'Ouest. Merci.